un enfant de 17 ans, quand j'étais blessé le 13 août 17, après mes blessures, quand mes blessures ont été guéries, j'ai été obligé naturellement de rentrer à mon régiment. Donc là, j'ai pris mon service comme avant, jusqu'au jour où j'ai passé la commission de réforme. Alors ma femme était au 34e d'artillerie à Périgueux, alors voilà, on convoque pour passer la commission. Enfin, le capitaine André, qui était de Rosière-aux-Salines, m'avait en amitié, c'est le cas de le dire. Parce que, comme j'étais le seul de l'Est dans le régiment avec lui, alors, il vient avec moi. Alors, passe la commission. Naturellement, quand j'ai eu passé la commission, le résultat, on me répond, oui, on devrait vous réformer, mais vous êtes gradé. Vous avez les bras et les jambes libres. Et en ce moment, il faut des hommes. C'était en 17, à fin de 17, au mois de septembre. Oui, septembre 17. Alors, on va vous mettre service auxiliaire inapte au front. Voilà. Service auxiliaire, inapte au front, je ne pouvais plus prétendre de retourner au front, mais de retourner à mon patrie. Alors, avec ce sort, le capitaine m'attrape, il me dit alors, il me dit que. Alors, je raconte l'histoire. Ah non, qu'il ne me dit pas ça, il ne faut pas qu'il te mette auxiliaire. Viens avec moi. Nous sommes rentrés à la commission, il a rediscuté avec les officiers. Quand il a eu discuté, les officiers répondent, oui, va le mettre service armé, mais inapte au front. Ça le satisfaisait, et moi, mon Dieu, ça ne me dérangeait pas. Alors ma femme voulait rentrer, alors je reprends mon service au quartier. Alors ça dure une quinzaine de jours. Alors, comme de dimanche là, ce dimanche où ça s'est passé, je n'étais pas de service, moi. Par conséquent, je profite de mon dimanche pour aller faire une tournée en ville. De la partie d'élevage, j'ai parvenu à la soupe à 10h, puis l'après-midi. Mais alors, sur 5h du soir, je me baladais en ville. Alors, je vois arriver un gars, presque au poste gymnastique, qui venait sur moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il s'amène, il me dit, maréchal de logis, qui me suis retour rencontré, qui me dit, voilà, tout le depuis le matin que je cherche après vous, il y a le capitaine qui vous demande. Il m'a dit ce matin qu'il me dit que tu trouves n'importe quelle heure, il faut me le trouver et me le faire rentrer au quartier. Alors je rentre donc au quartier, il était vers 6h du soir, le capitaine était encore à son bureau. Alors naturellement, quand je suis arrivé à son bureau, je me suis fait attraper d'une belle façon. Pendant que ça se faisait, qu'il y avait toute la journée qui m'attendait, et quand il avait besoin de moi, que je n'étais pas là, il me dit, mon capitaine, il dit, mais je ne suis pas de service aujourd'hui. C'est mon dimanche libre. Alors j'ai profité pour aller en ville, passer mon dimanche en ville. Oui, ben, c'est pas tout ça qui me... Mais demain matin, tu vas monter au quartier Saint-Georges et puis te faire habiller neuf et armé. Et tu viendras me retrouver après. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Pas d'autres renseignements ni quoi que ce soit. Alors, j'y vais. Alors, au quartier Saint-Georges, on m'habille complètement bleu horizon, avec casque, armement et munitions, tout le bazar prêt, va partir au front. Je rigolais pas trop. Alors quand je suis arrivé, je vais voir le capitaine. Quand il m'a vu arriver, qu'est-ce que c'est du guignol-là? Le chef de logis, le chef qui était derrière lui, dit, allez me chercher le maître tailleur tout de suite. Hein. Je ne vais pas chercher le maître tailleur. J'ai commencé à dire au maître tailleur, vous allez me déshabiller. Maréchal de logis Préjean, Vous allez le prendre ceinture, vous allez lui tailler tout ça, on dit, au poil. Hein, et qu'il a une tenue fantaisique. Et vous allez lui faire monter ses galons comme avant la guerre. Jusqu'au coude, parce que les galons avaient été rétrécis, on n'avait plus que des tirés au monde. Alors, enfin, on s'en déshabille. Enfin, au bout d'un moment, il a foutu tous ses tailleurs après ça, après la veste, après la culotte, après la partout, là, tout et tout. Alors, il a refait une tenue comme un 14, avec bande rouge sur les coutures, tout. Et là, elle était belle, elle avait une belle tenue. Alors je vais le retrouver. Ah ben tu dis voilà, tu dis. Je dis oui, mais capitaine, de pourquoi tout ça? Il dit avoir mes bagages, il dit mes amis, il dit mes missions. Oui, ben ça, tu vas à Paris à l'école militaire, tu dis. Je n'en savais pas beaucoup plus, ouais. Voilà ton billet, tu vas prendre le train et tu vas à Paris à l'école militaire. Alors, j'exécute. Le lendemain matin, je m'avais donné mes billets, mon ordre de route, le billet de transport. Le lendemain matin, je m'avais monté en gare. Et puis, je prends le temps, je m'avais parti à Paris. Déjà, en arrivant à Angoulême, il y avait un gars qui monte dans le train. Un artilleur aussi. Après, je dis. Alors il me voit la tête à la portière et comme on faisait généralement, quand on voyait un trou flambant dans le train, on montait avec lui pour se regrouper tous ensemble. Ça, sans ordre ni quoi que ce soit. Alors il monte avec moi. Bonjour, monsieur, salut, bon, salut. Alors, je sais que tu vas te... Il dit, je vais parler à l'école militaire. Ah, il dit, tiens, avec moi, je suis là. On passe, il dit, ouais, tout seul là-dedans, ça va aller tout seul. On monte un peu plus haut, leur train s'arrête et il y en a encore deux qui remontent. C'est que vous allez, hein? École militaire à Paris. Alors je dis, c'est bien. Je ramasse comme ça, juste pour arriver jusqu'à Paris, je ramasse comme ça 17 bonhommes. Là, il y a plus que puis moi qui faisais le 18e. On va nous la partir. Alors, comme c'était moi le plus gradé, ils m'ont laissé passer le premier, hein. Je descends, j'aperçois un capitaine qui était sur le quai. Sitôt qu'il m'a vu descendre, il lève la main comme ça, pour me faire voir qu'il était là. Il croyait peut-être que je savais qu'il m'entendait. Alors, enfin, moi j'arrive, alors, je salue tout le monde. Disez-vous, Fréchin, j'en étais presque éberlué, moi. Je dis, oui, capitaine, il dit. Ah, c'est vous le chef de détachement qui me dit. Vous avez donc 17 hommes avec vous qui me dit. Hein? Vous avez la liste. Hein? Je dis, ma foi, non, ma capitaine, j'ai pas de liste. Il m'a envoyé individuellement, ils sont venus. Il dit, bon, ben voilà une liste. Rassemblez-les tous et suivez-moi. Il me dit, je vous emmène à l'école militaire. Mais on l'a tous reparti, on nous a fait monter dans des camions à sortant de la gare de l'Est, et puis on directement à l'école militaire. Mais avec un même bagage et puis munitions tous. Quand on est arrivé là-dedans, naturellement déjà en cours de route, on avait fait beaucoup de réflexions là-dessus, comment ça se fait qu'ils nous font emmener. Il n'y en avait qu'un seul qui avait entendu dire qu'on allait conformément en détachement pour partir en Amérique. Mais, comme il y avait souvent les canards de la soupe, hein, alors on n'avait pas pensé. Alors on disait, moi, si nous allons en Amérique, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Les Ricains viennent en France et puis nous on va aller en Amérique faire la guerre là-bas. Et ben, ça va pas. Et puis alors, emmener des munitions là-bas, puis eux, ils nous en amènent. Alors, ça va encore plus. Quand on est arrivé à l'école militaire, alors, ils nous ont fait déposer les armes et les munitions. Aber das hat sie mir an alle Kapitän, die hat so die Musik, das habe ich richtig aus ihrem Büro gerufen. Mama, ich habe ihr Büro. Alors, elle dit, là, quand on va donner tout de même quelques explications. Alors, on dit, voilà, vous allez avoir tous vos gens avec vous, vous avez la feuille de transport groupée, vous allez toucher chacun 300 dollars qui sont à titre de prêt sur vos appointements futurs. Et puis, vous allez prendre le train, vous irez à Bordeaux. À Bordeaux, vous serez en subsistance. Au 144e d'artillerie, et la fois vous embarquerez quand ce sera le moment, et vous partirez en Amérique. Et c'est vous le responsable pendant tout le trajet. Quand vous arrivez là-bas, la haute commission française vous attendra là-bas. Bon, c'est ça. Alors voilà pourquoi on est parti en Amérique. Mais quand je suis arrivé au 144 d'infanterie à Bordeaux, le colonel qui était là, il m'a reçu comme un chien dans un jockey. Qu'est-ce que vous voulez foutre ici? J'ai pas de place pour vous recevoir, j'en ai déjà trop, déjà je ne peux pas m'occuper de vous, je m'en fous des artilleurs. À l'arrêt, qui dit, cherchez ce que vous voudrez, faites ce que vous voudrez, mais moi j'ai pas besoin, je ne peux pas vous garder au quartier. Le colonel dit, laissez-nous au moins déposer nos armes. Et enfin nos armes, nos partages. Et puis on fait, oh, faites ce que vous voudrez, qui dit, mais moi je m'en occupe. Alors je le dis, je rassemble un peu mon homme, et alors je leur dis, voilà. Alors, parce qu'il me dit, d'abord il dit, vous en avez encore pour 8 jours au moins avant d'embarquer. Le bateau que vous allez embarquer, il est en réparation. Il y a 8 jours de réparation après avant qu'il puisse repartir. Alors, vous rendez compte? Alors, c'est à vous de vous arranger. Enfin, c'est à moi de m'arranger, tant mieux. Alors, je reprends, je rassemble mes hommes, et puis alors, je raconte l'histoire qu'ils avaient entendue, puisque ils étaient autour de moi quand le colonel m'a reçu, comme ça. Alors, enfin, il y en a dans le groupe, qui n'était pas loin, qui était sur la ligne de Paris-Bordeaux. Et puis alors, comme c'était un train express, il disait, dans 8 jours, on a le temps d'aller jusqu'à la maison, et puis revenir pour le jour de l'embarquement. Je dis, oui, mais le jour de l'embarquement, mon vieux petit, hein, débrouille-toi pour le savoir. Moi, je ne le sais pas. Alors, enfin, ils se sont débrouillés chacun d'un côté, l'autre de l'autre. Et là, tout s'est envolé. Moi, je reste encore avec un autre, et puis ma foi, on va travailler au port encore. Alors, au port, dans quelques bureaux là-dedans, j'ai encore réussi à m'enseigner. En effet, j'ai connu tout de même le jour et l'heure de l'embarquement, quand les réparations, mais c'était 8 jours, il y a, c'était 8 jours après. Hein. Nous deux, nous, partir, on commençait à dans Bordeaux, comme ça, s'amuser, manger, boire quand c'était nécessaire. Enfin. Alors, le jour de l'embarquement arrive, je ne sais pas comment on avait fait notre compte, tous deux, on est allé de l'autre bout de la ville, hein. Bientôt l'heure de l'embarquement. Hein. Alors, j'avais entendu, moi, que l'heure de l'embarquement, c'était l'heure qu'on montait sur le pont. Mais va te faire voir, l'heure de l'embarquement, c'était l'heure qu'il lâchait le bateau. Comprends? Alors, il dit, on va arriver, nous on est parti quand même, on va allonger jusqu'au port, sans chercher, comme on va dire qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, sans chercher à aller chercher nos bagages au 144, ça nous a encore fait un grand détour pour y aller. Alors, enfin, nous voilà partis. Au moment où on arrive sur le port, je vois qu'il levait la passerelle. La passerelle était déjà bien levée de 20 cm. Quand je suis arrivé, il y a alors juste le temps de sauter dessus pour monter, pour rentrer sur le bateau. Alors, les gars qui étaient sur le bassin à gage en haut, allez, voilà, vous avez vu qu'on manquait d'eux. Quoi. Alors, enfin, ça a été la fête, naturellement, quand on a mis le pied sur le pont du bateau, et ils ont essayé d'enlever le pont, et puis nous là-dedans. Alors, je dis au gars, il a dit, oui, d'accord, on est arrivé juste, hein, je dis, mais tout ça, je dis, ça ne va pas me ramener bagage, moi. On ne t'occupe pas, tu me dis. On a tout enlevé de là-bas, tu dis tout, il n'y en a rien laissé du tout, par conséquent, tes bagages vont être ici avec tes autres. Alors, on a fouillé, alors on a retrouvé chacun ses bagages, là, tu vois. Et puis nous l'avons monté sur le bateau, alors là, nous l'avons parti en Amérique. Alors, c'était quand même soir, à l'embarquement, quand on a été embarqué, que le bateau a été libéré, nous l'avons parti sur le bateau, toujours, déjà, jusqu'à l'entrée de la Gironde. Mais quand on est arrivé à l'entrée de la Gironde, il n'y a pas eu moyen de sortir dans l'Atlantique. Parce qu'il y avait les filets anti-sous-marins qui étaient posés dans la baie de la Gironde. Alors, plus moyen. Alors, il n'y a pas lui stationner. On a stationné là toute la nuit. Alors, il y a eu le conjour le lendemain matin, quand ils ont relevé les filets anti-sous-marins pour laisser la liberté du port, on a pu partir. Alors, on est parti. Alors, on a commencé à naviguer. Oh, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être. Alors, qu'est-ce que j'aperçois? Il y avait un contre-torpilleur de chaque côté de nous. À 100 mètres de chaque côté de nous, qui nous escortaient. C'était tous des escorteurs. C'était deux escorteurs parce qu'il y avait, des sous-marins allemands qui étaient signalés dans le port. Alors ils nous ont suivis comme ça pendant trois jours. Alors le troisième jour, ils ont quitté, ils ont retourné. Ils nous ont laissés en plein air. Alors nous voilà partis à New York. Naturellement, la traversée s'est très bien passée. Bien sûr, le paquebot Espagne, il y avait une quantité de civils dedans. Alors, ça s'est bien passé, on avait nos cabines, bien mangé aussi. Alors on arrive en vue de la Statue de la Liberté. Alors on disait, tiens, d'un coup, le bateau qui cale, ils arrêtent le bateau, on était loin du port. Alors le commandant, nous ne pouvons pas rentrer au port ce soir, nous rentrerons demain matin. Alors pour que ces messieurs-là ne trouvent pas trop de talent, et puis pour fêter notre bonne traversée, nous allons faire une danse ce soir. Ils ont fait jouer l'orchestre, on a dansé au salon, on a vidé encore une bonne affaire de bouteilles. Du bord, après la passant, c'était passé une assez bonne nuit comme ça. Le matin au jour, on apprend tout de même, quand ils ont mis les machines en route, on apprend qu'on n'allait pas rentrer au port, parce qu'il y avait des sous-marins allemands qui étaient signalés aux environs du port. Alors, tout avait été pris, les dispositions, puis des contre-torpilleurs qui s'étaient placés, qui nous avaient entourés. De manière à voir toutes les difficultés qu'il aurait pu se trouver. Alors on rentre, le quai où on devait aller, on n'a pas pu y entrer, parce qu'il y avait eu un sous-marin qui avait tout de même rentré dedans, il avait foutu en l'air les deux bateaux qui étaient un bateau de chaque côté, du bord, hein, qui était au débarquement, il était à quai, tous les deux, les avons enfoncés dedans, ça fait pour rentrer dedans, on ne pouvait plus y aller. Alors on a été dans un autre port, dans un autre quai, pour débarquer. Alors on a débarqué là, on a été reçus comme des anges, si bien qu'on a pris la décision tout de même pour aller à Broadway, puisque le bureau de la mission était à Broadway. Alors pour monter à Broadway, se présenter, et vous mettre les hommes par trois, et puis faire un petit défilé propre, hein, parce qu'il n'y avait pas 10 minutes que j'avais fait, qu'on était en marche. Il y avait une musique américaine qui nous précédait, pour bien faire voir qu'on arrivait. Mais dans mon détachement, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et alors, c'était plus la peine de que je cherche à faire un défilé militaire, rien, rien. Enfin, ils marchaient ou pas quand même, quand de la musique. Mais les femmes étaient des folies, quoi. Alors, enfin, il a fallu s'arrêter, naturellement, à Bois-Louis, au 42e. Alors, je suis monté au bureau, je suis encore bougé là-dedans parce que je prends le premier ascenseur et je me suis aperçu trop tard que l'ascenseur-là ne montait qu'au 10e étage. Parce que tous les ascenseurs ne montent que de 10 à 10 étages. Alors moi, j'allais jusqu'au 44e étage. Il fallait que je prenne le 5e étage ascenseur. Après, j'étais obligé de sortir du premier et puis aller au 5e pour le faire bon. Alors, je suis arrivé, alors naturellement, on m'attendait. Alors, on me dit oui, ils ont pas sur mon banc. Là, tu dis voilà, on va vous servir, il y a un restaurant en bas, on va vous servir une collation. Et vous, voilà votre détachement, votre liste, voilà votre détachement, et puis les ordres. Vous allez reprendre. D'ailleurs, il y a un officiel de la mission qui va vous accompagner pour vous guider un petit peu. Et vous allez descendre jusqu'à Washington. Aujourd'hui? Oui, ce soir. Partez ce soir. On a pris le train. On est descendu à Washington. À Washington, tout le monde descend. Bon, on descend. On nous a fichu dans un cantonnement américain, qui était fait aussi pour les transports de troupes. Alors, on y est resté 4 jours. 4 jours en arrière-plan, à visiter Washington partout. C'était là que j'ai eu l'occasion. J'avais un petit appareil de photo. Je voulais photographier le Capitole, mais je savais pas que c'était interdit. On parle des oies du Capitole, mais c'est qu'il y a les gardes qui sont là aussi. Il y en a un qui vient, naturellement, salue quand même. Et là, il m'explique, il dit non, c'est interdit. Il dit venez, il dit, je vais vous présenter au chef de poste. Bon, on va jusqu'à avec le chef de poste. Et puis alors, on va voir comme ça, je dis oui, mais je ne savais pas que c'était défendu, mais j'avais dit, tiens, là, un beau bâtiment, comme si on y est, ce serait bien. Je dis, mais non, comme dit, vous avez quelqu'un avec vous? Je dis, ben oui, j'ai dit, j'ai un ami qui est là avec moi pour voir, on se promène ici. Nous avons 4 jours à rester ici. Alors, je dis, ben venez, amenez-le. Alors, il est venu avec moi. Alors, ils nous ont fait visiter le Capitole, visiter l'intérieur. Ils n'ont pas été satisfaits que ce qu'on s'assoit l'un après l'autre dans le fauteuil où Roosevelt avait signé la déclaration de guerre. Et alors, ils nous ont démontré aussi de toutes les facultés qui sont là-dedans. Alors, parce que quand il y a des conférences là-dedans, naturellement, ce n'est pas public. Ce n'est pas public si on veut. Mais il y a une grande rotonde qui est magnifique. Hein. Tu restes dans la rotonde, il y a des chaises, il y a des bancs, des fauteuils. Hein. Tu restes là, tu entends aussi bien parler dans la salle de séance que si tu étais tout à côté. Formidable. Alors, enfin, on y est resté 4 jours comme ça, travaillé. On a remonté dans le train, donc la partie. À Pittsburgh, quoi. Pittsburgh rédition. 4 jours de stage. Mais il faisait déjà un peu plus chaud, hein. Et on sentait que le soleil commençait à donner. Alors, 4 jours après, on rentre dans le dur. On nous ramène à Columbia. Columbia, alors là, il a commencé à taper, hein. Alors, on a encore resté 4 jours là. Et au bout de 4 jours, on est remonté dans le dur et on nous a emmené au camp Jackson. où il y avait 70 000 hommes de troupes, c'était pas rien. Hein. Galant dans un bled en plein équateur. Hein. Alors là, interdiction de sortir du matin à 7 heures du matin jusqu'au soir à 5 heures. Alors de 7 à 5 heures pendant la nuit, c'était les manœuvres, c'était les exercices, c'était tout ce que tu voulais. Parce que le jour là-bas, on peut pas dire qu'il fait nuit. Tu lirais sur les coups de 1h, 2 heures du matin, tu lirais le journal. Alors, et puis ça dure quoi, une demi-heure. Mais alors, on est arrivé là, ça a été là, je me suis posé des certaines questions. Dis, mais nous, on arrive là, on avait juste notre mouchoir de poche, là, c'est tout. Dis, qu'est-ce qu'on vient foutre là? Pour apprendre l'anglais ou quoi? Ou pour faire les guignols à côté de... Et ça va pas, vous. Et personne ne voulait rien dire. Dis-moi, ça n'a pas l'air de beaucoup connaître ce truc-là. Mais au bout de 4-5 jours, qu'est-ce que je vois arriver au camp? En train. Un train qui s'amène au ralenti, avec 3 wagons. Sur ces wagons-là, 2 pièces de 75, avec les caissons, et 2 pièces de 155 cours. Alors là, j'ai compris. Ah, j'ai dit, ouais. Ah, il y a le commandant qui est arrivé, le commandant français, qui est venu, puis alors il est venu naturellement me trouver. Alors j'ai dit, mais commandant, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il m'a dit, mon petit, j'ai dit, c'est vous qui allez vous en servir. Qui débarquait les pièces, qui les rembarquait et les redébarquait pour qu'ils voient bien comment ce que vous allez faire. Parce que vous voyez, il n'y a pas de quai. Alors c'est à vous de vous débrouiller. Et puis quand ce sera fait, ils auront vu, après on s'en fiche, hein, mais après il faudra leur montrer la description des pièces, leur apprendre à les manier et à tirer. Alors quand ils seront instruits, ben, après nous verrons ce que nous serons pour en faire. Alors voilà pourquoi que j'ai compris. J'ai dit, bon, ben, ça a été pour faire l'instruction des officiers américains pour qu'eux, sachant manier les pièces, puissent instruire leurs troupes qui venaient en France. Alors naturellement, pendant ces magnifiques stations, enfin c'était l'an dernier, les officiers commençaient à tirer, ils tiraient, ça veut débrouiller, parce qu'à là-bas, tu tirais en pleine brousse, hein, tu tirais parfois. À 20 km, ça n'avait pas d'importance, il n'y avait rien. Tu as déchargé les canons, là tu rabats, tu commences par rabattre les côtés du wagon. Tu démontes les côtés de l'autre côté. Tu sais qu'il y a deux versants au wagon.
Ouais.
Donc du côté que tu vas décharger, tu les baisses, hein, tu les renverses côté sol. Et les autres, tu les sors des gonds. Et tu les ramènes et puis tu les ajoutes. Tu les ajoutes à ceux que tu as baissés. Ça te fait un pont. Comment dire? Voilà comment tu fais. Et alors, quand il s'agit de remonter, alors là, pardon, c'est à dos, hein. Il n'y a pas à chercher. C'est à dos, hein. Il faut le pousser, le canon, pour remonter. Hein. Faut le pousser. Pour descendre, il faut le freiner. Alors, il y en a un qui est sur les freins du canon, qui patine. Les patins touchent terre, puis parfois on descend. On se rend encore vite, encore facile. Oui, alors, ils étaient instruits. Oh, ça faisait déjà bien 400 mois qu'on était là. Ils tiraient avec. Alors, moi, bonjour, à 5 heures du soir, le soleil est encore bien, hein. Faites tranquille. Alors, en été, il y avait ce qu'ils appellent en bois. Mais pour moi, c'est des broussailles. Les arbres tout de suite 2,50 m de haut, il est plus haut. Alors, il dit maintenant les enfants, hein, débrouillez-vous avec les pièces, continuez à user des obus. Moi je m'en fous, mais moi je vais me faire un petit sommeil. Je m'allonge sur le bord du bois, à l'ombre, et puis je roupille. J'ai roupillé tellement que quand ils ont arrêté de tirer comme ça, il y en a eu un lieutenant qui vient, il me tapait sur l'épaule, mon réveil. Il dit, vous dormez? Ben, je dis, bien sûr, je dors, je sais pas. Comment? Je dis, vous pouvez dormir avec un bruit comme on va faire avec les canons? J'ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose, moi. Quand vous serez là-bas au front en France, qu'il y aura 4-5 jours que vous n'aurez pas dormi du tout, que vous serez en pleine bagarre, vous verrez quand vous aurez une heure si vous ne pouvez pas dormir, malgré que ça tire sa langue. Ah, là, vous avez fini, vous ne tirez plus. Mais il y a les copains là-bas qui tirent à côté. On est rentré au camp, mais pendant la nuit, moi, pendant la nuit sur ma couchette, j'ai commencé à choper la fièvre d'avoir dormi au soleil comme ça. Commencé à choper la fièvre, puis elle était énervée directement. Il m'a dit, si bien qu'il aura appelé de Toubib, quand il a vu ça. Il allait à l'hôpital. À l'hôpital du camp, il y a un bel hôpital dans le camp là. Alors il m'a emmené à l'hôpital. Là, j'étais dans la lune, complètement dans la lune. Et le lendemain matin, je me suis, une paire d'heures quand j'étais à l'hôpital, j'avais déjà fait des piqûres ou je sais pas quoi. Alors, je me réveille et puis je me suis dit, bien sûr. Alors, il y avait une infirmière qui était à côté de moi, qui me surveillait pour quand je me réveillerais. C'était une Canadienne, elle était de Québec. Hein. Elle parlait bien français. Hein. Et puis, elle était pas mal. Hein. Ma part, il a tout mis américain, lui. Alors, il me l'a attaché, quoi. Et il me dit, c'est vous qui le soignez. Il dit, c'est lui, il faut lui faire son traitement, il dit, pas tout. Il dit, c'est un coup de palu. Et alors, enfin, je suis resté à l'hôpital. On m'a soigné, c'était très bien. Et alors, voilà l'ordre qui arrive, pendant ce temps-là, au détachement, de rentrer en France. La mission était terminée, ils avaient instruit les officiers, on laissait les pièces là-bas, tous les leaders revenaient sans rien, quoi. C'était fini. Ils rentraient en France. Alors, le commandant français qui vient, alors il demande au docteur, le docteur dit non, je ne peux pas le laisser sortir de l'hôpital. Il n'est pas guéri, il a encore d'affaires. Alors, le commandant me dit, ben, il vient vers moi, lui, puis il me dit, alors, on dit que nous sommes obligés de partir, on rentre en France, la mission est terminée. Alors, j'en regrette beaucoup de ne pas pouvoir t'amener. Il dit, oh, je dis, comment non. Moi, j'en regrette pas. Alors, il y a encore rigolé un peu. Alors, on va pas. Ils sont partis. Et moi, je suis resté. Je suis encore bien resté à moi. Il y avait bien au moins qu'ils étaient partis, que j'étais encore là. Mais ils étaient à peine partis, qu'il y avait Washington qui téléphonait pour savoir, mais on peut avoir mon bulletin de santé. Alors, chaque coup, c'était l'infirmière qui répondait en français. L'infirmière disait, non, il y a encore 30 tuer, non, c'est pas terminé. Moi, je savais bien pourquoi. Parce que les soirs, vers 6 heures du soir, quand ce soleil était bien tombé. Alors, elle me prenait par le bras, et puis on allait faire le tour de l'hôpital à pied, comme ça, en bavardant, tranquillement, pour murmurer un petit peu, pas rester à moi, je sais pas. Elle était là. Seulement, alors, moi, je m'avais vu une autre chose. J'avais vu qu'il y avait le Toubib, qui avait l'air de lui faire des amitiés, hein. Alors, je dis, bon. Alors donc, c'est pas le Toubib qui m'empêche de partir. Si on m'empêche de partir, c'est l'infirmière. Alors, ça continue comme ça. Il a téléphoné 3-4 fois. Alors, d'un coup, elle me dit, De mon petit, je me dis, je vais être obligé de te laisser 4 jours. Ah, je dis pourquoi? J'ai une permission de 4 jours, hein, ça fait presque un an que je n'ai pas été chez mes parents. Hein. Alors je vais avoir 4 jours, puis je vais aller les voir, je reviendrai aussi vite. Hein. Bon, bah, 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 bon voyage. Hein. Elle était à peine partie. Voilà, à Washington, qui retéléphone encore un coup pour demander après moi de tout vivre. A compris ou pas compris. Alors il vient me le dire. Il me dit, Washington, téléphone, vous toujours malade. Alors, un peu qu'elle paraît que vous n'avez pas appliqué mieux. Alors je dis, écoutez, je crois que j'ai tiré sur la corde suffisamment. Dire, peut-être pas dans mon bon de sortie, si je vais m'en aller. Attends. Il n'a pas hésité. Hein. Il m'a fait mon bon de sortie, il s'est dit, voilà, déjà un bon débarras. Il m'a fait mon bon de sortie, puis me voilà parti. Me voilà parti à Washington, je me suis fait un guirlandais comme un poisson. Ben, j'ai dit, si vous aviez été comme moi, vous n'auriez pas pu bouger non plus, je dis, hein. Et puis, en toute chose, j'ai le temps de partir en France. On te dit, c'est pas comme en France qu'il faut s'en retourner. C'est de l'heure que tu réclames un point au clou. J'ai dit, bon, bah, New York, il fera comme vous, il dit, il attendra. Il dit, vous repartez tout de suite sur New York, voilà vos ordres. Vraiment. Même la partie sur New York. Quand je suis arrivé à New York, le commissaire m'a dit, ah, vous voulez tout de même arriver, vous voulez, qu'il dit, c'est pas trop tôt, qu'il n'en pas. D'accord, encore une fois, à ronchonner. Alors, même répétition, j'ai dit, écoutez, dit, mes copains, il y a un mois qui sort à France, il dit, eh ben mon Dieu, dit, on pourra appeler France attendre encore gardera pour moi. Oh, mais tu me dis, parlez pas de rentrer en France, qu'il me dit. Vous rentrez pas en France. Je dis, pourquoi je rentre pas en France, moi? De ma facile. Non, 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 qu'il me dit, vous êtes reporté dans ce land d'Épinal, qu'il me dit. Moi, je dis, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Eh ben, justement, qu'il me dit, c'est moi qui ai besoin de vous, qu'il me dit. Il me faut un contrôleur des métaux, qu'il me dit. Et c'est vous qui fait, puisque vous êtes là. On va pas faire venir un spécial de France, qu'il me dit. Puisque vous êtes là, c'est vous qui allez. Il me dit, voilà, qu'il me dit, vous allez, voilà, $300, vous allez aller vous faire habiller. Du pied à la tête en civil. Je ne veux plus vous voir en tenue militaire. Et quand vous serez habillé, vous viendrez me retrouver. Et nous reparlerons. J'ai encaissé les $3. Et puis je suis parti me faire habiller. Alors, dans le magasin qu'on m'a habillé, il dit, ben, ma tenue militaire, tout ça, il dit, qu'est-ce que bon linge, vous ne faites pas de mauvais sang. On va mettre tout ça dans une malle. Et on va l'envoyer à la mission. Vous êtes libre. Alors, j'ai été retrouvé par Mignot. Alors, ah, ben, tu me dis, voilà, monsieur qui me dit. bien voir que c'était un civil. Alors, il me dit, voilà, alors, il a commencé à me donner mes papiers, mes cartes d'identité, les cartes de passage, tout ça, les cartes de police, et les poissons. Pour les métaux, il me dit, voilà, vos billets de chemin de fer qui sont prêts, vous allez descendre à Pittsburgh. Il dit, à Pittsburgh, on vous attend. Ah, et ben, en parlant à Pittsburgh, je me l'ai remonté dans le dur et puis me l'ai parti à Pittsburgh. Le train arrive enfin à Pittsburgh, après bien des pérégrinations. Je descends du train. Voilà un guignol qui s'approche. Bonjour, monsieur Fréchin. Je tourne la tête, je regarde. Un gars que je ne connaissais pas du tout. Il dit, vous me connaissez? Il me dit, il y a longtemps que je vous connais. Il y a longtemps que New York m'a envoyé vos photos, qui me dit tout ça. Et puis les pièces nécessaires pour vous loger, puis vous. Ah, il m'a pas bon choix. Alors, ça a été lui qui m'a renseigné. Il me dit, allez, qui me dit. Mais il dit, on va d'abord aller. Il dit, mes bagages, Vous n'appelez pas pour mes bagages, vos bagages iront à l'hôtel. C'est les autres sont dans les guillemets. Alors, on va venir, on va aller au restaurant, on va aller casser la côte. On a été au restaurant, on a mangé, on a discuté. Alors, c'était là qu'il m'a dit, maintenant, nous allons faire l'inspection des métaux dans les usines qui travaillent pour l'armée française. Et tout le matériel qui a été fabriqué là, on va le vérifier. Voir s'il répond aux normes du contrat français. S'ils concordent, on les poinçonne. S'ils ne concordent pas, on a un poinçonneur futur. Et l'usine sera obligée de le faire. On va leur faire les coups. Alors c'était pour ça que je suis resté là-bas. Alors naturellement, un beau jour, nous étions à la West Fancy Company. Alors l'armistice arrive. On arrive tous les deux pour rentrer à l'usine, une usine morte. Plus de bruit, plus rien, on voyait plus personne. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas aller voir au bureau, on ira dans notre bureau. On va voir ce qui se passe là-dedans. On arrive, si tout le monde était rentré, ils étaient tous là, toutes les hautes autorités de l'usine. Il était dans notre bureau qui nous attendait. Ils se sont pris la main, puis là, on a commencé à danser tout autour de nous, comme ça. La guerre est finie. War is over, war is over. Oh, la folie, là. La folie, là. Quand ils se sont bien amusés, comme ça. Et nous, on rigolait comme des perdus. Alors, on va, le directeur va dire, il y a les qui me disent, c'est quoi ça qui dit. On va aller arroser ça. Alors, on va monter tous dans les voitures. Et puis, alors, pour en fait exprès, non? Parce que j'avais déposé à la banque de Pittsburgh, j'avais déposé de l'argent pour ne pas le traîner sur moi, et puis pour faciliter les emprunts, les sommes qui devaient me revenir, qui étaient versées à la banque au lieu que je sois obligé d'aller à la poste comme on fait ici, quoi. Alors, je m'étais mis en civil, j'étais en civil, en tenue militaire, je m'étais mis en tenue militaire pour aller à la banque. Et quand je voulais retoucher de l'argent, si j'y allais en civil, je ne voulais pas m'en donner. Il fallait que j'y aille en tenue militaire. Hein. Alors c'est ce jour-là, le jour de l'armistice, qui avait dit au copain, ah, je vais me mettre en tenue militaire. Encore rigolé un coup à la banque. Alors j'avais donc mis pour aller dans la matinée ou dans l'après-midi à la banque. Alors il m'a fallu la monter en voiture pour revenir en ville parce que l'usine est bien loin de la ville. Hein. Ce n'est pas comme ici l'usine dans le milieu du village. Les usines sont en perpète. Hein. T'as au moins 20-25 km. À faire pour aller à l'usine. Alors, on a monté en voiture, on était à peine sorti entré dans la ville. Malheureusement pour moi, j'étais en tenue militaire. Et là, qu'on commençait tous à gueuler, et puis alors à monter sur les marchepieds de la voiture, grimper sur les capots, et on dit petit, puis ça faisait des agglutinations après les voitures. On a été obligé presque de traverser toute la ville. Alors on a réussi tout de même, en faisant une paire de petits détours, parce qu'ils connaissaient la ville naturellement, mieux que nous. Alors on a réussi à venir vers un grand café qui est presque au centre de Pittsburgh. Alors ma foi, les voitures descendaient, et puis ma foi, il a fallu que ce soit moi et le copain qui prennent la tête, et puis eux, derrière nous, la main sur les épaules, puis la guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie. On a commencé de faire tout le tour des tables, avant que de pouvoir dire, oh, j'ai dit, une minute, il dit, moi, je m'assois. Alors, sur une table qui est à peu près libre au milieu, je me suis mis assis, le copain s'est mis assis à côté de moi, alors, le directeur, tout le monde a recueilli ici,
à se garer.
Mais alors, il y a une chose qui s'est passée là, alors, où on a rigolé. Alors, parce que là-bas, Edwirk, c'est état sec. Il passe pas de rivière. Un état où il ne passe pas de rivière, c'est état sec. L'alcool est interdit. Tu ne bois que de l'eau ou de l'eau minérale ou de, des limonades ou de manger du fruit, quelque chose comme ça. Alors, le directeur me dit, qu'est-ce qu'on boit là? Du champagne? Vous êtes français, j'ai le droit de vous payer du champagne. Mais enfin, tout de suite, ça vous dit, bon, moi tout seul, on amène tout de suite 4 bouteilles. Oh! Alors, j'ai dit, il y en aura d'autres qui boiront du champagne qui n'y ont pas droit. Hein. Alors, en effet, bon, si belle et si bien, qu'il y en a eu qui ont été culottés assez, hein, enfin, des gars qui nous connaissaient, des bureaux, ils s'amenaient avec leur verre de soda, et puis alors, ils balançaient le verre de soda sous la table, et puis ils buvaient un bon coup dans le monde. Bon, le champagne dans ton verre, mais je reconnais que t'as passé l'époque comme ça. Si bien que ça a continué comme ça, jusqu'à quelle heure, j'en sais rien. Et le lendemain matin, je me suis demandé qui c'était qui m'avait amené à la maison, qui c'était qui m'avait déshabillé et me mettait au lit. J'en savais plus rien du tout. J'avais des cartes de visite pleines dans mes poches. De chacun avait mis sa carte de visite dans les poches partout, il avait bien là. Il avait pris pour lui faire au champagne, c'est garanti. On a rigolé et je cachais. Quand j'ai demandé aux copains le lendemain matin, des rentes, je sais pas. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire que c'est qui nous a ramenés. Il est fort probable. On a dit, il est fort probable que ça a été la police. Et là, quand il a été torturé, il a amené la police, la police nous connaissait. Alors, il nous a ramené. Et alors, au bout d'un moment, j'étais réveillé comme ça, oh, il était bien 9h du matin. D'un coup, j'entends la porte qui se déclenche, et je la vois qui s'entre pas avec moi. Des malogeuses qui étaient là, une bonne vieille, on dit, vous êtes réveillé, oui. Elle dit, oui, il dit, mais dites-moi un petit peu, qui c'est qui m'a ramené, il dit, aucun de ces deux messieurs qui vous ont ramené tous les deux, et puis, la fois, je vous ai déshabillé, puis je vous ai mis au lit. Elle était chic. Et quand je l'ai quitté pour terminer à Yuxon, elle m'a fait cadeau d'une cuillère à café. En argent, c'est un marin qui est dessiné, c'est une petite cuillère à café. Et puis alors, elle a fait cadeau aussi, un pyjama neuf qu'elle avait acheté, un pyjama blanc à Brandebourg. Et je ne sais pas comment ça se fait, je ne le revois pas. Il y a le pantalon et la veste. C'est elle qui l'a, elle me l'a offert, elle m'avait emballé ça, elle me l'a offert pour partir. Ah, ce qu'elle aimait bien, c'était quand on me mettait en militaire. Ah, mon Dieu, quand elle m'apercevait le matin en tenue militaire, tu pouvais être tranquille que j'aurais pas passé ça devant elle, ça qu'elle est la bosse. Mais elle me donne un coup de bosse, hein. Oh. Mais voilà. On a eu des bons moments là-bas, alors. J'ai eu des bons moments.